Genèse chapitre 40, commençons verset 1. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Et il les mit maître dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Ensuite au verset 13, encore 3 jours, et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Un peu plus loin, verset 20. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon, mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Chapitre 41, verset 1. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Versets 25 à 40 maintenant. Joseph dit au Pharaon, « Ce qu'a rêvé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années et les 7 beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides, sorties après les premières, sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. » Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront. Et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on n'en apercevra plus l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour le prélèvement un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs. Le pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Dans les médias, est-ce qu'il y a des articles sur l'avenir qui vous intéressent? Il y a les articles, par exemple, sur la nouvelle technologie, les outils de demain. Il y a les articles sur la géopolitique, quels sont les pays qui seront influents dans les prochaines années. Il y a les articles sur l'économie, où faire un bon investissement. Il y a les articles sur le foot, le mercato de l'été, qui va être transféré. Quels sont les articles sur l'avenir, qui concernent l'avenir et qui vous intéressent? Dans notre récit, il est question des rêves de Joseph qui sont un peu comme une fenêtre sur l'avenir. Et pourquoi s'intéresser à ce récit? Après tout, on sait que par la suite qu'ils se sont réalisés, donc ce n'est plus tant une fenêtre dans notre avenir, mais pour son avenir. Alors pourquoi s'intéresser ici à ce récit? Parce qu'il nous enseigne quelque chose de plus essentiel encore que ces différents domaines qui pourraient nous intéresser. Il nous enseigne que Dieu est omniscient, qu'il sait tout de l'avenir et qu'il est souverain sur l'histoire. Quand on y réfléchit, pensant à l'avenir, il y a des choses qui souvent nous échappent dans la manière de prévoir ce qui va se passer. Prenez par exemple la colère, la contestation. Est-ce qu'on peut présager de ce qui va arriver en Algérie, au Soudan? Est-ce qu'on aurait pu prévoir à l'avance que la colère et la contestation, et même ici en France avec les gilets jaunes, est-ce qu'on aurait pu prévoir tout cela à l'avance? Dans la vie de Joseph, frappant de voir toutes les émotions, la colère dont il est la cible, il est élevé par son père, au-dessus de ses frères, et par jalousie et colère vis-à-vis de lui, ses frères vont le jeter dans une citerne. Il y aura la convoitise de la femme de Potiphar, la colère de Potiphar qui va le jeter en prison. Est-ce qu'on aurait pu dire à l'avance où tout cela allait finir? Il semble être à la merci de ses émotions, de ses colères. Une autre chose qui est difficile à prédire, ce sont les hauts et les bas. Pensez au PDG de l'entreprise Boeing, sacré homme de l'année en 2018 par un magazine d'aviation, avec un parcours jusqu'ici sans faute. En 3 mois, 2 crashs, il se trouve dans peut-être la plus grande crise que la compagnie ait connue. Est-ce qu'on peut vraiment présager, deviner où les hauts et les bas vont finir? Joseph vit une trajectoire qui ressemble à des montagnes russes. Élevé par son père, jeté dans une citerne par ses frères, vendu en esclave, et ensuite intendant de Potiphar, il est quand même jeté en prison par la suite, injustement accusé par sa femme. Plus fort que les émotions les plus fortes, plus perceptif, plus présent encore que tous les retournements les plus inattendus, on apprend par ce texte que Dieu agit souverainement dans l'histoire, révélant en partie l'avenir, mais accomplissant toujours ses promesses. Je vous suggère trois points pour parcourir ce passage. Ce texte, double rêve en prison, double rêve pour Pharaon, double application. Double rêve en prison d'abord. Si Joseph, au début de notre récit, devait s'arrêter, comme on le fait parfois pour réfléchir un peu à un bilan de notre vie, s'il devait regarder en arrière, quelques années en arrière, et regarder son parcours, quel serait son bilan grâce à l'âge qui nous est donné au chapitre 37 et 41, on sait qu'il y a à peu près 13 années qui se sont écoulées entre le moment où il a été vendu en esclave et au moment où il se retrouve devant Pharaon. D'abord en tant qu'esclave, une partie du temps, ensuite en tant que prisonnier. Et même s'il a connu des moments d'ascension, la courbe est quand même descendante. Esclave d'abord, prisonnier ensuite. À l'heure du bilan, que faut-il penser de Dieu dans nos histoires? Quel bilan est-ce que l'on ferait de la souveraineté de Dieu dans nos histoires? Possible que quelqu'un ce matin regarde un peu ses circonstances et se dise, mais j'ai l'impression que depuis le moment où je lui ai fait confiance pour ma vie, que dans les circonstances, les choses ont plutôt décliné. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Dans les moments les plus bas, on a entendu ce refrain qui devait être rassurant pour nous les lecteurs, mais certainement aussi pour Joseph. L'Éternel était avec Joseph dans les moments les plus bas. C'est déjà un encouragement, mais plus encore, on voit à travers ce récit, ce texte, que Dieu est omniscient et souverain dans notre histoire. Omniscient et souverain. Alors que Joseph est placé en charge des prisonniers, il y a deux nouveaux qui sont admis en prison. Vous l'avez entendu, le chef des boissons, les chansons, et puis le chef des boulangers. Et on pourrait négliger l'importance de ces rôles. Ce n'est pas l'équivalent du stagiaire qui va préparer les cafés pour Pharaon ou quelqu'un. Non, à la cour du Pharaon, dans un contexte de pouvoir et de suspicion, ils sont en charge de son alimentation. Ils devaient être des personnes de confiance, et en particulier pour les chansons, c'est quelqu'un qui souvent faisait figure de confident, de conseiller. On le voit avec Néhémie aussi. Les deux étaient en charge donc de l'alimentation du roi. Et il se retrouve en prison dans ce qui ressemble à une mise en examen dont le jugement viendra plus tard. Et tous les deux, une nuit donnée, font un rêve différent. Joseph les rencontre avec une mine défaite le lendemain matin et il les réconforte. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? S'il y a bien une personne qui peut expliquer ses rêves pour Joseph, c'est bien Dieu. Et il commence par interpréter le rêve du chef des boissons, les chansons. Sur la base du rêve, il affirme que dans 3 jours, cet échanson sera à nouveau en train de servir le Pharaon. Sachant cela, Joseph saisit l'occasion de lui dire « Pense à moi, fais preuve de bonté, intercède en ma faveur auprès du Pharaon. » Dans les faits, qu'est-ce qui va se passer ? Il va l'oublier. Il va l'oublier pendant 2 ans. Et notez la différence entre Joseph et Dieu quand il s'agit de connaître l'avenir. Dieu connaît parfaitement l'avenir au jour près, et c'est exactement ce qui va se passer, il peut prédire précisément les choses. Pour Joseph, il avance uniquement sur la base de ce que Dieu lui permet de savoir, Dieu lui révèle. En entendant une interprétation favorable, le chef des boulangers, cette fois-ci, veut savoir l'explication pour son rêve, et pour lui, Joseph explique que dans 3 jours, il va être mis à mort. Un même jour, un rêve au même moment, mais 2 destinées bien différentes. Comme annoncé, 3 jours plus tard, le jour de l'anniversaire du Pharaon, il se retrouve auprès du Pharaon. L'un est condamné à mort et l'autre est élevé, placé à nouveau au service du Pharaon. Quant à les chansons, il ne se souvient pas de Joseph. Il l'oublie. Et quel devrait être le bilan pour Joseph à ce moment-là ? Quel devrait être le bilan pour Joseph ? Est-ce qu'il fait bien d'avoir confiance en la souveraineté de Dieu ? Est-ce qu'il devrait dire comme Pangloss dans le roman de Candide de Voltaire, « Tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. » Est-ce qu'il devrait être aussi optimiste ? Cette perspective, c'est celle que Voltaire critique dans son roman, celle de Leibniz, un philosophe allemand. Et selon ce dernier, pour expliquer la présence du mal et de la souffrance dans le monde, il affirme que nous sommes dans le meilleur monde possible. Le meilleur monde possible. Une manière pour lui de donner une place à ce mal dans le monde. Pour l'illustrer, ce serait par exemple de dire « Si le mal n'existait pas, eh bien on n'aurait pas la détermination pour s'en débarrasser, le courage pour le vaincre. » Une manière d'expliquer le mal, mais c'est justement le problème. En l'expliquant, en le rationalisant, on le rend acceptable. Alors que si on écoute Joseph, il dénonce ce mal. Vous l'avez entendu au verset 15. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Il n'est pas en train de rendre le mal acceptable comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, c'est un mal qu'il doit dénoncer, et nous aussi. La Bible, ici et ailleurs, décrit le mal comme étant inacceptable. Alors, quelle serait une juste perspective? Est-ce que c'est celle de Voltaire, justement, qui lui voyait un monde dont Dieu est à l'origine, un peu comme un dieu horloger qui monte cette horloge et qui la laisse ensuite tourner? Il se retire, pas de souveraineté de Dieu dans notre histoire. Mais là encore, ça ne colle pas avec tout ce récit de Joseph qui nous montre que Dieu est bel et bien souverain dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on va dire à l'heure du bilan, que ce soit le nôtre ou d'une personne avec qui on échange? Qu'est-ce qu'on va dire à l'heure du bilan? En imaginant une conversation avec quelqu'un qui souffre, on serait peut-être tenté de tout de suite vouloir l'expliquer, expliquer cette souffrance comme la rendre utile, acceptable, rationnelle. Mais justement, on voit ici qu'il est légitime de la dénoncer, de dénoncer ce mal, de le voir comme inacceptable. Il n'est pas acceptable et utile, il est à dénoncer. Nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes. L'autre erreur consisterait pour résoudre ce problème du mal, à dire tout simplement que Dieu n'est pas souverain, ce n'est pas possible. Compte tenu des souffrances que je vis, que je vois, Dieu ne peut pas être souverain. Mais Joseph ici dénonce le mal et affirme par sa vie, par ses convictions, que Dieu est bel et bien souverain. Et pour lui, les deux ne sont pas incompatibles, ni dans ce texte, ni ailleurs dans la Bible. Une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce que le double rêve de Pharaon va nous dire de plus sur l'omniscience, la souveraineté de Dieu? On passe à double rêve pour Pharaon. En ce moment, à la Villette, on peut trouver une exposition sur Toutankhamon. Et Toutankhamon est un paradoxe. Il est aujourd'hui très célèbre, on parle de lui, une sorte d'article qui sort à son sujet. Mais il a longtemps été ignoré dans l'histoire. À la différence de grands pharaons dont on connaissait l'emplacement de la sépulture, la sienne a été difficile à trouver. Si les premières ont été pillées, la sienne a été découverte intacte en 1922. Sous plusieurs pharaons, on a essayé d'effacer Toutankhamon de l'histoire, soit en martelant son nom sur des édifices ou en usurpant des monuments qui le décrivait. Et la chose qui a caractérisé son règne, et probablement une des raisons pour lesquelles on veut l'oublier, c'est que son règne a été très bref. On estime qu'il est mort à l'âge de 18 ou 19 ans. Parce qu'à l'époque, le pharaon était vu comme la personne qui devait garantir le bon ordre. Le bon ordre. Obtenir la bienveillance des dieux, en particulier pour la culture et pour l'alimentation, la fertilité des terres, la fécondité des élevages. Et vous voyez, dans notre récit, on rencontre un pharaon qui est troublé. Troublé parce qu'il a eu deux rêves consécutifs et qui concernent tous les deux la fertilité et puis aussi les semences, la fertilité des terres, la fécondité des élevages. Il est troublé suite à deux rêves. Dans le premier rêve, le pharaon voit sept vaches belles, grasses, qui sortent du fleuve, une allusion au Nil et à tout ce qu'il apportait. Sept vaches laides et maigres viennent ensuite et avalent, engloutissent les premières. Dans un deuxième rêve, le pharaon voit sept épis gros et beau, monté sur une même tige, mais sept épis secs et brûlés suivent et engloutissent les premiers. Les sages et les magiciens qui sont dans l'entourage du pharaon devaient expliquer ce genre de rêve, mais là ils sont dans l'incapacité de le faire. Et c'est là que les chansons, parce que le pharaon est troublé, les chansons vont se souvenir de Joseph. On le fait venir en toute hâte, et notez le contraste. Le contraste entre deux années d'attente et ce jour où on le fait venir en toute hâte, on le rase, on l'habille pour le présenter précipitamment au pharaon. Toute l'attention de la cour, et notre attention serait sur Joseph, n'est-ce pas, alors qu'il est mené devant le pharaon pour expliquer ce rêve. Voici la première chose qu'on entend dire. « Ce n'est pas moi, C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Compte tenu des injustices qu'il a subies, entre autres celles de l'échanson, on pourrait l'entendre d'abord parler de ces injustices, de ce qu'il a vécu. Compte tenu du prestige dont il bénéficie tout à coup, en contraste avec ceux qui n'arrivent pas à expliquer les rêves, on pourrait l'imaginer en train de parler de sa sagesse. Mais toute son emphase est sur Dieu. Et il affirme que Dieu n'est pas seulement celui qui sait à l'avance ce qui va se passer, il affirme que c'est lui qui définit l'histoire. Verset 16, verset 25, « Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. » Une affirmation qu'on retrouve au verset 28. Dans nos moments d'élévation, ici-bas, qui est-ce qu'on aura tendance à mettre en avant ? À qui est-ce qu'on aura tendance à penser dans ces moments d'élévation, dans une trajectoire professionnelle ou dans d'autres domaines, d'autres contextes, dans la comparaison qui est faite avec les autres? À qui est-ce qu'on aura tendance à penser? Qui a fait la différence avec les autres? Après avoir clarifié d'où vient la compréhension, Joseph explique au Pharaon les deux rêves qui n'en sont qu'un. Il y aura 7 années d'abondance suivie de 7 années de famine. Le double rêve montre l'accomplissement qui sera imminent et certain. Et face à cette affirmation de la souveraineté de Dieu, peut-être qu'on a des questions qui sont soulevées dans notre esprit. En voici une. Est-ce que la souveraineté de Dieu, le fait que Dieu dise ce qui va se passer dans l'avenir comme si c'était accompli déjà, est-ce que ça annule la responsabilité humaine? Est-ce que ça enlève la liberté humaine, cette souveraineté de Dieu? Mais Joseph ne s'arrête pas avec une explication. Remarquez au verset 33 et suivant qu'il, avec une certaine audace, il va proposer un plan avec trois éléments, trois mesures. La première consiste à nommer un vizir, l'équivalent d'un premier ministre, qui devra gérer ses années. Il y a ensuite une deuxième mesure, établir des commissaires sur tout le pays. La dernière consiste, cette fois-ci, à rationner ses moissons. Est-ce que Joseph est passif, amorphe, dans l'état d'esprit, tout est écrit là-haut, comme si la souveraineté de Dieu annule toute responsabilité? Au contraire, on le voit ambitieux, on le voit prendre des initiatives, entreprenant. Un tel point que le Pharaon se dit, mais la seule personne qui pourrait gérer cela, c'est lui. Et donc, il le nomme comme cet homme providentiel, ce premier ministre. Notez que l'esprit de Pharaon était troublé, mais il voit en lui l'esprit de Dieu, celui qui peut gérer cette crise à venir. Il attribue aussi à Dieu cette sagesse. Notez que le Pharaon a très bien compris où Joseph voulait en venir. Tout doit être attribué à Dieu en termes de gloire. La souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité de l'homme, mais en fin de compte, c'est quand même à Dieu qu'est attribuée la gloire, le mérite. Pharaon dit ensuite, « Sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Le commandement lui est remis de toute l'Égypte. » Pensez à cette superpuissance de l'époque, la grande puissance, et on a un homme qui était esclave avant. Qui entend cela? Des symboles lui sont donnés, des habits, chaînes en or, bagues, processions en char. Et un détail qui, semble-t-il, n'est pas anodin pour l'auteur, c'est que quand le char passe, tout le monde doit s'agenouiller. Le pharaon vient d'avoir deux rêves au sujet d'un même événement futur. Est-ce que Joseph n'a pas fait la même expérience des années plus tôt? 13 ans plus tôt, n'est-ce pas lui qui a fait deux rêves, qui annonçaient un même événement? Dans un de ses rêves, n'y avait-il pas aussi des épis qui, avec une gerbe, s'agenouillaient, s'abaissaient devant lui? C'est comme ça qu'il explique comment ses frères, dans l'avenir, vont s'agenouiller vis-à-vis de lui. Ici, on a comme un avant-goût les prémices de l'accomplissement des rêves que Joseph lui-même a eus. Mais l'histoire n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'on devrait retirer de ce qui se passe ici? Vers la fin de sa vie, Jean d'Ormesson a parlé plusieurs fois de, de Dieu, de ses convictions, avec une certaine franchise, a parlé de sa foi, de ses doutes, ses questionnements. Suite à une maladie, dans un entretien, il a affirmé la chose suivante: il faut penser comme si Dieu existait et agir comme s'il n'existait pas. Il faut penser comme s'il existait et agir comme s'il n'existait pas. Avec l'histoire de Joseph en tête, est-ce que c'est vrai ça? On l'entend sous d'autres formes, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais certaines personnes diront: il faut prier comme si Dieu existe et agir comme s'il n'existait pas. Et peut-être particulièrement en France, dans notre contexte, on aime bien faire cette dichotomie entre la manière dont on pense, nos convictions religieuses, spirituelles, et la manière dont on va vivre. Mais est-ce qu'on voit cette dichotomie chez Joseph? Est-ce qu'il fait cette différence? Dans l'attitude de Joseph, on marque les deux vont de pair. Quand il est tenté par la femme de Potiphar, quand elle veut le séduire, sa pensée et ses actes vont de pair. Quand il est injustement mis en prison, sa pensée, ses actes, service qu'il accomplit auprès des prisonniers, vont de pair. Lorsqu'il est élevé dans la position de vizir, sa pensée et ses actes vont de pair. Et de même pour nous, dans la tentation, on serait peut-être tenté d'avoir une pensée et une manière de vivre qui serait différente. Dans les moments d'injustice, on serait peut-être tenté d'avoir une pensée, mais une manière de vivre qui ne va pas de pair. Dans les moments d'élévation, où on pourrait être tenté d'avoir une pensée et une manière d'agir différente. Mais notez dans la manière d'agir de Joseph, une unité entre les deux. On arrive maintenant à une double application de ce passage, si vous voulez bien. Comment est-ce qu'on va appliquer ce passage ? Par exemple, est-ce qu'il faut être à l'affût de tout rêve étrange qu'on pourrait avoir et de se dire « il va falloir que je trouve l'explication ». Ou alors, est-ce qu'il faut s'attendre comme Joseph ? Oui, c'est d'accord, on aura des hauts et des bas, mais en fin de carrière professionnelle, je serai tout en haut. Est-ce que c'est de cette manière qu'il nous faut lire Joseph ? La tentation qu'on a relevée tout à l'heure, de se voir comme le centre de l'attention, se retrouve ici. Ce n'est pas avant tout nos rêves ou notre carrière, là où on va terminer, qui doit ressortir du texte. Comment est-ce que l'auteur de la Genèse voyait l'histoire de Joseph? Dans une histoire plus large, la promesse faite à Abraham d'une descendance qui serait en bénédiction pour toutes les nations. Et vous voyez ce qui est en train de se passer ici? Joseph devient une bénédiction pour les habitants de l'Égypte, dans la famine, mais aussi pour les nations environnantes qui vont venir, et sa famille inclue, comme les prémices d'un accomplissement. Dieu agit souverainement dans l'histoire, révélant en partie l'avenir, mais accomplissant toujours ses promesses. Alors, quelle devrait être la première application face à ce texte, la première réaction? N'est-ce pas l'émerveillement? S'émerveiller de la manière dont Dieu agit dans l'histoire. Pensez à sa trajectoire, et on peut suivre sa trajectoire si on suit ses habits, en quelque sorte. Les habits de Joseph. Son père lui donne une robe multicolore, il est tout en haut, mais ses frères lui enlèvent. Il se retrouve au fond d'une citerne, il est vendu. Potiphar l'élève, mais la femme de Potiphar va retenir son manteau et prétendre, grâce au manteau, qu'il a essayé d'abuser d'elle. Il va se retrouver encore plus bas. Et ici, dans notre texte, on voit deux fois où il est revêtu de nouveaux habits. Revêtu de nouveaux habits pour rencontrer Pharaon, mais revêtu d'habits encore plus splendides lorsqu'il a expliqué le rêve. Vous voyez la courbe. Pardon. Je vais tout casser avec ma courbe. On va passer là-dessous. La courbe qu'il vit, ça ne vous fait pas penser à une autre courbe? Philippiens 2, où il est dit de Jésus qu'il était de condition divine, mais il a connu la condition d'un esclave, s'abaissant jusqu'à la croix. Et Dieu lui a donné un nom qui est bien plus élevé que tout autre nom. Tout le monde s'agenouille devant lui. On devrait s'émerveiller de cette trajectoire-là. Et pour Jésus, les distances sont encore plus amples. Il n'est pas simplement le préféré de son père, le premier-né ou celui qui devrait hériter du droit d'aînesse. Non, il est l'égal de Dieu. Et quant au point le plus bas, ce n'est pas simplement la prison. Jésus va connaître la mort à la croix. Et il le fait par amour pour nous, pour être une bénédiction pour nous, pour toutes les nations. Jésus se présente par excellence comme celui qui vit cette trajectoire. Et que dire des rêves? Que dire des rêves de Joseph? Est-ce qu'on devrait penser à nos rêves? L'évangile de Matthieu nous parle des rêves d'un autre Joseph, qui lui aussi va avoir des rêves. Il est question de trois rêves que Joseph, le père de Jésus, a. Le premier rêve doit expliquer la naissance de Jésus. Le deuxième rêve, qu'il doit fuir en Égypte pour protéger Jésus, sa famille. Le troisième rêve, pour sortir d'Égypte, revenir en Israël. Avec Jésus, on devrait s'émerveiller de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans toute cette longue histoire, plus longue que celle de Joseph, bien plus que Joseph, Jésus a été source de bénédiction pour les nations. Bien plus que Joseph, il a nourri les nations, il s'est présenté comme le pain de vie. Et un pain qui nourrit pas pendant 7 années de famine, mais qui nourrit éternellement, qui donne la vie éternelle. La première application, ça devrait être l'émerveillement. Mais quelle est la deuxième ? N'est-ce pas la confiance ? La confiance. La trajectoire de Joseph, elle se retrouve, et celle de Jésus, elle se retrouve en quelque sorte aussi pour nous, dans notre vie, dans notre condition. 1 Pierre 5, verset 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Au moment voulu. Quel est ce moment voulu ? Peut-être qu'on va vivre un relèvement de notre vivant, d'une injustice subie. Peut-être qu'on va vivre un relèvement tout simplement parce que dans la grâce de Dieu, il veut nous permettre de servir un plus grand nombre. Mais c'est avant tout dans la présence de Jésus que ce relèvement aura lieu. Que cette gloire, que cet héritage en commun, grâce à Christ, grâce à son œuvre, c'est là avant tout qu'il y aura ce relèvement. Et dans toutes les circonstances de notre vie, en attendant, c'est la confiance en ses promesses qui doit dominer, qui doit faire la différence. Comme Joseph, si certaines promesses nous sont données, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas de l'avenir, où il va falloir prendre des décisions sans connaître l'avenir. Comme Joseph, on doit parfois vivre avec l'oubli des hommes, mais en sachant que Dieu n'oublie pas. Comme Joseph, on est appelé à compter sur la sagesse de Dieu, confiant qu'il veut la donner. Comme Joseph, on s'engage au service des autres, avec un engagement en entreprenant, en partageant celui qui est le pain par excellence, le pain de vie, le partageant avec d'autres, ambitieux dans ce désir-là, confiant que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Amen.